1, 2, 1, 2. Bafouille.
Bafouille. Une émission consacrée à la création sonore.
Pourquoi tout le monde se sent forcé de parler comme Carla Bruni quand il a un micro devant soi ?
Désolé, on fait ce qu'on peut. Hein.
C'est sur Radio Vassivière. On écoute ?
On écoute. Et si la manière inerte avait des choses à nous chuchoter, à nous crier, à nous révéler sur le monde qui nous entoure? C'est en tout cas ce que croit dur comme fer, sans faire de mauvais jeu de mots, Mathilde Schoenauer-Sebag, autrice et réalisatrice du documentaire Les Cailloux meurent aussi, accompagnée par l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique de Bruxelles. Parce qu'elle porte à la fois une casquette de chimiste, de musicienne, de passionnée d'histoire, de bidouilleuse de son et d'activiste. Cet objet sonore non identifié à la croisée des mondes étonne d'abord par sa forme fictionnelle, originale et bouillonnante. Passer l'effet de surprise, il change aussi notre regard sur un truc qui nous semble pas très intéressant au premier abord. On est attentif aux hommes, pas mal aux animaux, un peu aux végétaux, mais qu'en est-il des minéraux et des atomes qui les composent? Ne méritent-ils pas aussi qu'on raconte leur petite histoire? Une chose est sûre, après avoir écouté ce son, vous ne regarderez plus les cailloux de la même manière. Il s'accompagne d'un petit livre à la couverture bleue du même nom qui complète l'expérience sonore, mais ce son peut évidemment s'écouter sans. Si vous en avez l'occasion, on vous conseille d'écouter au casque ce son chez vous et de vous procurer le petit livre disponible sur Etsy. Mais assez bafouillé, on écoute.
Bah, c'est quand même émouvant de faire des liaisons, enfin, c'est hyper... C'est intense, quoi. Enfin, c'est une relation hyper forte avec d'autres atomes. D'un coup, tu te retrouves imbriqué avec une autre particule. T'es un duo, un trio, un milieu. Et du coup, t'es ensemble, quoi. Là, t'es une communauté.
Un jour, il s'est passé quelque chose d'un peu dingue. La journée commençait bien, je suis partie de chez moi, grand soleil. Il y avait 9,7 km jusqu'au labo.
Ouais, c'est ça le plateau clignotant, toi.
C'est-à-dire 32 minutes, avec le vent de dos et quand mon vélo le veut bien. Parce que parfois, je pense qu'il est... Enfin, je sens qu'il est un peu moins motivé. Comme les humains, en fait. Hein. Il y a un petit bitonnier qui frotte, un garde-boue qui se décroche, la selle qui part en vrille. C'est un vélo de style hollandais qui a bien vécu, assez confortable, cadre classique, acier,
carbone fer,
selle bien rembourrée,
polymère issu du
genre de porte-bagages bizarre mais plutôt solide,
carbone fer,
moyeu à vitesse intégrée, poignée agréable sous la peau,
polymère issu du pétrole,
des câbles de frein tout neuf,
carbone fer zinc,
un fier destrier.
Ça va, je sais plus de quoi j'ai rêvé, tu vois, il y avait des sortes de grands parasols.
Je sais pas si ça vous arrive de parler avec des objets. Moi, je parle hyper souvent avec mon vélo. Je pense que c'est peut-être l'objet qui me connaît le mieux. Quand je rentre au milieu de la nuit, c'est souvent avec lui que je retrace le cours de la soirée. Quand je suis triste ou fatiguée, c'est parfois auprès de lui que je m'épanche. Je suis arrivée au labo. Tout était normal. C'est un laboratoire de chimie un peu à l'interface avec la physique. C'est un domaine qui s'appelle la science des matériaux. L'objectif de mon travail, enfin en fait de ma thèse, c'est d'augmenter le rendement des panneaux solaires. Les atomes, les molécules, au bout d'un moment, à force de les manipuler, on finit par leur prêter des personnalités, voire des intentions. Par exemple, le fluorure de sodium, je me souviens, il n'était pas du tout collaboratif. L'acide ascorbique, toujours un peu frileux. Il y avait l'iodure de méthylammonium. Je crois que lui, c'était vraiment une plaie.
Merde, il n'y a plus d'éthanol.
Oh. Et il y a des jours où les expériences, elles marchent pas. On en vient à penser que ça dépend pas de nous, que les molécules, elles choisissent parfois un peu de collaborer, parfois un peu de résister. Ce jour-là, en fin d'après-midi, j'ai voulu lancer une petite synthèse qui devait tourner toute la nuit.
3 ml d'acide oléique, 7 ml d'octadécène. Il faut que je rajoute 1 ml d'YCl3, 0,6 ml de GDCl3, 360 microlitres d'ytterbium et puis 40 de erbium. Allez, c'est parti, on va peser tout ça. Ok, 7 ml d'octadécène. Allez, viens par là, toi.
Et c'est là la première fois que ça m'est arrivé.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il parle? Il m'entend? Trop bizarre. Mais j'ai rien fait de différent d'habitude, attends. Ah ouais, octadécène? Ah non, c'est quoi? J'essaye l'acide ascorbique. Acide ascorbique. Où tu es? Où tu te caches? Petite acide oxotrogulofuranolactone. Ah, te voilà. Bon.
Ok.
Hyper étrange. Je... C'est quoi en fait? Des voix de qui? Je suis complètement en train de rire. Ok, fin de la journée. Je reprendrai demain.
Je suis sortie de la salle de manip, j'ai posé mes pieds sur le carrelage du couloir.
Caoutchouc, polymère issu de la pétrochimie. Céramique, aluminosilicate hydraté, KALSI3O.
J'ai récupéré ma veste, mon sac, mon bonnet.
Viscose, C6H10O5N fois.
Mes clés.
Acier, fer, carbone.
J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre.
Vert, SiO4.
J'ai éteint les néons.
Mercure, quartz, silicate, alumina.
J'ai tourné la poignée de la porte qui menait dehors.
Aluminium.
J'ai inspiré.
N2, H2O, CO2, PM2.5, SOX, NOX, COV, POPS.
Je suis allée décrocher mon vélo, et là, cette fois, j'ai entendu deux voix, mais distinctes.
La mémoire de l'empreinte d'un humain, mais c'est pas la mémoire de ta vie à toi. Enfin, même si du coup, ça fait partie de ta vie, puisque
t'es en tant qu'atome, du coup. Il garde des mémoires des tout petits événements, comme ça.
Ouais.
Voilà, vous m'entendez?
Elle nous a pas parlé?
Ben ouais, je crois.
Ah oui, je vous ai parlé, oui.
Ah, on savait pas si ça arriverait un jour.
Si quoi arriverait?
Salut Adélaïde.
Vous connaissez mon prénom?
C'est un peu impossible de savoir quels humains vont nous entendre.
Nous, ça fait un moment qu'on t'entend.
Mais vous êtes qui? Je vous vois pas.
Moi, c'est Gédéon, je suis un atome de gadolinium.
Et moi, c'est Fée, je suis un atome de fer.
Vous êtes des atomes.
Exactement. Moi, j'ai 64 électrons.
Et moi, j'en ai 26. Oh là, elle a l'air sonnée.
C'est vrai que ça fait souvent ça au début.
Adélaïde?
Mais du coup, vous êtes des atomes de mon vélo.
Bah non, t'as déjà vu du gadolinium sur un vélo? Non, on s'est rencontrés dans ton sang.
Dans mon sang?
Ouais, à l'époque où j'officiais en tant qu'agent de contraste, pour révéler les maladies et tout.
Quand j'avais fait les examens médicaux.
Ouais, moi je faisais partie de ton hémoglobine.
Ouais, c'est ça, on s'est croisés dans un petit vaisseau sanguin vers le pied gauche, je dirais.
Gros coup de foudre.
Mais ça me dit pas comment vous êtes arrivé sur le vélo.
Et tu te souviens la fois où tu t'es piqué le doigt avec le cap de frein, là?
Ouais.
Et ben voilà, on est sorti à ce moment-là.
Non.
Oh, la sortie, je te raconte pas, c'était quelque chose.
Oh, une lumière de dingue, de l'oxygène en pagaille.
Oh, vous êtes 37 degrés à l'intérieur et après, boum, on se fait cailler.
Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des humains qui vous entendent?
Assez rarement, quand même, je dirais.
C'est vrai que ça faisait longtemps.
Ok, donc je suis pas complètement folle.
Ah non, nous on parle tout le temps, c'est juste une question d'écoute, en fait.
Bon, ok. Je pouvais entendre certains atomes. Au labo, sur mon vélo, et puis peu à peu ça s'est mis à m'arriver de plus en plus souvent. Après, c'est surtout avec Fée et Gédéon que j'ai bien accroché. J'avais quand même envie de savoir comment les autres humains entendaient les atomes. Parce que c'est un peu bizarre, même si on est composé d'atomes, en fait, je connais peu de gens qui ont des relations avec eux. Bah déjà, les relations avec les choses qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas, c'est assez rare, hein. une autre échelle, je sais que beaucoup d'humains ont des relations avec des objets. Un peu comme moi avec mon vélo. Au Japon, par exemple, il y a même des cérémonies. Des cérémonies pour les pinceaux, pour les bouliers, les épingles rouillées. Il y en a même une pour le repos des poupées cassées. Dans un film de Chris Marker que j'aime bien, qui s'appelle Sans soleil, la narratrice raconte.
Même si la rue était vide, je m'immobilisais au feu rouge, à la japonaise, afin de laisser la place aux esprits des voitures cassées. Même si je n'attendais aucune lettre, je m'arrêtais devant la poste restante, car il faut honorer les esprits des lettres déchirées, et devant le guichet de la poste aérienne, pour saluer les esprits des lettres non envoyées.
C'est réjouissant de voir qu'il y a d'autres liens avec la matière que juste l'utiliser qui peuvent être faits. Ça m'a fait plaisir de rencontrer Adélaïde. Quand on m'a sorti de la terre, c'était assez violent. Qu'on peut s'émerveiller de voir toutes les histoires qui résident dans un objet comme un bout de plastique, un bout de verre éclaté. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter quand on le trouve par terre comme ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire quand sa fonction de verre n'est plus? On a envie de l'écouter. Peut-être juste de le considérer un peu en tant que matière. Peut-être qu'on a envie de le caresser. Peut-être qu'on a envie de le sentir. Ouais, ça fait bizarre de se dire qu'on est juste une vulgaire matière à être consommée, utilisée. C'est quand même agréable. C'est bien aussi sous terre avant. Je me demande si l'histoire va se répéter. J'ai hâte de me retourner un peu, me lever au chaud. Peut-être que je vais faire un petit somme, un petit roupillon, quelques millions d'années. Ça m'a quand même bien épuisé cet épisode.
On est fait et faite d'atomes. Ce qui est matière est atome, c'est-à-dire une poignée de neutrons, de protons et d'électrons. Des toutes petites particules. Et entre elles, le vide. La matière, c'est 99,9% de vide. Il y a un nombre incalculable de choses que l'on touche, que l'on fréquente, que l'on goûte, que l'on voit, que l'on sent, que l'on vit, mais qu'on ne perçoit pas. Je promène mon regard autour de moi. Je vois un mug. Je ne perçois ni un empilement amorphe de silicium, de calcium, ni le vide. Je vois une lampe qui brille, là, posée sur mon bureau. Je ne perçois ni un alliage métallique qui, sous l'effet d'un courant électrique, émet des photons qui se promènent jusqu'à mes yeux, ni le vide. Je vois un ordinateur sur lequel je tape le texte que je lis. Je ne perçois ni les électrons qui circulent, ni les 0 et les 1 qui s'encodent, les semi-conducteurs, les super-alliages du tantal, ni le vide. Et je vois encore moins que le tantal vient du Rwanda. Je croque une carotte. Je ne croque pas dans des chaînes d'acide aminé. Et dans du vide. Éventuellement arrosé de phosphate marocain. Ces informations sont pliées à l'intérieur de la matière, cachées dans ses sinuosités et ses recoins, invisibles et intouchables. Nous passons notre temps à effleurer les manifestations de leurs existences. D'où provient chaque ressource qui compose les objets? L'identité des mineurs qui les ont extraits? Le processus d'extraction du minerai, les différents états d'oxydation, de complexation, les changements de phase cristalline. Le procédé de Bayer, la jolie structure des atomes de carbone de nos crayons à papier, l'épitaxie en phase vers le silicium, de conditions de fabrication de ma machine à laver. D'où est-ce qu'ils viennent, ces atomes autour de moi? C'était quoi leur vie avant d'être ici? Tout ce qui nous entoure vient de l'autre bout du monde. Comment ils se sentent, ces atomes? À quel moment est-ce qu'on passe d'atomes à ressources? Comment varie leur valeur?
Est-ce qu'ils sont tous cotés en bourse?
Qui choisit les prix?
Ce serait quoi le consentement pour un atome?
Tout ce qui nous entoure vient de l'autre bout du...
L'autre bout du monde.
D'où est-ce qu'ils viennent, ces atomes, autour de moi?
C'était quoi leur vie avant?
Avant d'être ici. Poétique de la destruction.
Les atomes, on ne sait pas comment ils vivent.
De la destruction.
Moi, j'étais dans une grande mine à ciel ouvert au Brésil. Et j'étais là depuis des millions d'années. J'étais sous forme d'oxyde de fer et je roupillais avec la famille dans la montagne, au chaud. J'étais tranquille, mais depuis quelques années, il y avait un peu des bruits de machines en fond sonore. Et un jour, il y a eu un énorme bruit de caillasse assourdissant. J'ai pas trop compris ce que ça faisait, tout allait hyper vite. J'étais secouée dans tous les sens, je comprenais rien. C'est venu d'un coup et petit à petit, je commence à comprendre que la roche où j'étais était concassée, broyée. Puis on m'a emmenée dans des hauts fourneaux pour être affinée. Et alors là, c'était encore hyper intense. On m'a trimballée dans pas mal d'endroits, dans l'usine. On m'a chauffée hyper fort. Ça m'a fait perdre le contact avec les atomes d'oxygène avec qui j'étais liée depuis toutes ces millions d'années dans la roche. Et là, on m'a mis avec un atome de carbone. On m'a lié avec lui et j'ai compris que c'était pour qu'on fasse de l'acier.
Vérifier Bluetooth pour PC et Mac.
Quand je repense à ce moment de ma vie, à cette extraction, ce déracinement, ouais, j'ai l'électron tout tremblant encore. Je me demande ce qu'ils sont devenus, tous les autres atomes de fer avec qui j'étais dans la roche au Brésil là-bas.
Google Assistant ou Amazon Alexa,
chargés de tout contrôler, y compris les contrôleurs eux-mêmes.
Les humains se croient tout permis, quoi. Ils pensent qu'ils ont tout à leur disposition, que tout leur appartient, sans nous poser aucune question, sans même imaginer ce qu'on peut vivre, nous.
Téléviseur QLED 8K, radio réveil, parfait pour épouser votre smartphone.
Je sais pas trop jusqu'où ça va aller, quoi, ce qu'ils peuvent faire de nous, jusqu'à quel point.
Grâce à une liaison 5G...
Bah, ils ont créé plein de trucs trop bien, hein. Des outils, des maisons, des machines.
D'accélérer.
C'est plein de trucs hyper utiles.
Une enceinte connectée.
Il y en a d'autres, je comprends vraiment pas à quoi elle sert.
Plus de fonctionnalités, alors patate connectée.
Ils ont besoin de toujours plus.
De paraître le plus humain possible à 50 km d'autonomie.
Du coup, ça va aller.
Autonomie de 6 mois, l'eau d'innovation et de bonnes idées. Un avatar ultra réaliste qui sera impossible à différencier d'un véritable humain. Une bougie d'affichage tête haute, 240 km.
Moi, j'ai pas envie que tous les autres avatars de me faire ça s'extraire.
Mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites ?
Un jour, je me suis embrouillée avec un type.
Et je suis en train de taguer un QR code de trottinette, monsieur.
Mais pourquoi faire ?
Les trottinettes électriques en free-floating sont une aberration écologique.
Mais il est 2h du matin, moi j'en ai besoin pour rentrer chez moi.
En prenant en compte son cycle de vie complet, la trottinette est seulement 3 fois moins de CO2 par kilomètre qu'une voiture.
Bon, je pense qu'on a à peu près les mêmes idées.
Plus de la moitié de son impact carbone est liée à sa fabrication.
Le sabotage, ça n'a jamais payé.
En plus, ces trottinettes ne sont utilisées qu'un mois en moyenne et elles remplacent la voiture moins d'une fois sur 10.
Mais en attendant, moi, je vais être obligé, par exemple, de prendre un Uber. Ce Uber, il pourrait tuer quelqu'un.
Quand il me parle de l'ici et du maintenant, moi, je pense au hier et au là-bas. J'entends la trottinette raconter une autre histoire. J'entends les atomes de lithium, Bolivie.
Niobium.
Les atomes d'aluminium,
Brésil.
Chine.
Cobalt. RDC.
Les milliards de
gisements de pétrole offshore en RDC.
J'entends le fer, le cuivre,
nickel,
l'argent,
Nouvelle-Calédonie,
l'or.
Rapport
colonie. Corruption.
Afrique du Sud.
Antimoine.
Chine.
J'entends l'oreille.
Bismuth.
Borat.
Chine.
Turquie.
Charbon.
Gallium.
Chine.
France.
Germanium.
Profit.
Chine.
Indium.
Caoutchouc.
Chine. Magnésium.
Chine.
Phosphate.
Thaïlande.
Maroc.
Intoxiqué.
Tungstène.
Chine.
Des rivières empoisonnées.
Des veines, des poumons, des branchies encombrées, des fluides vitaux ralentis, jusqu'à l'arrêt. La vie suspendue. J'entends tous ces atomes. Ils racontent d'autres histoires, autrement plus sinistres et réelles que l'histoire hypothétique de ce type qui tue quelqu'un en Uber. Puisque je suis en capacité d'offrir du temps d'antenne à la matière inanimée, alors je dois le faire, pour que les humains apprennent à l'entendre, cette matière, là, partout autour de nous. Que la prochaine fois, ce ne soit pas moi qui réponde à ce type, mais que ce soit la batterie qui lui réponde. Les fantômes des guépards des jungles qui ne sont plus. Les reflux des marées troubles. Les mineurs chinois et leurs tongs, arpentant les fissures de la terre, loin des yeux du monde. Les diamants qui goûtent et les volcans sourds qui grondent. Le vélo, Fée, Gédéon et moi, on est partis se promener en banlieue de Charleroi. Je voulais recueillir leurs avis sur les questions qui les concernent, mais pas n'importe où. J'avais choisi une usine désaffectée de transformation du charbon. Quel meilleur endroit qu'un palais en ruine pour parler de monarchie ? Quel meilleur lieu que les vestiges de la première révolution industrielle ? pour évoquer la quatrième. Bon, sur la surface de la planète Terre, on vous trouve où physiquement ?
Ben, moi, je suis un métal abondant, donc on me trouve un peu partout, au Brésil, en Chine, en Australie. Mais je suis très abondant. Ouais.
Bon, moi, je suis un métal rare, et on me trouve aussi en Chine, au Japon.
Davos 2016, placé sous le signe de la quatrième révolution.
La quatrième révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, c'est les objets connectés, etc.
Il va relancer la croissance, puis nous faire entrer dans un cercle vertueux à l'échelle mondiale.
Diminuer l'impact environnemental.
L'envie de penser.
Un mail.
Tout en ménageant les ressources.
Moins de matière que une lettre.
Ouais, non, mais ça c'est faux, c'est pas du tout immatériel. Les mails, ça flotte pas dans l'air. C'est tout ça, c'est de la matière, c'est des infrastructures, c'est des data centers, c'est des câbles, c'est des métaux, c'est des atomes comme nous. Et donc le stockage des données, comme je disais, c'est des infrastructures énormes qu'il faut refroidir avec plein de machines. La transmission des données, ça passe par des câbles terrestres, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de matière.
Tu veux dire, il y a rien de plus matériel que l'immatériel.
Bah, on est vraiment partout, ouais.
Mais comment on a fait pour gober ça, du coup ?
Moi, j'ai l'impression qu'on veut nous faire disparaître un petit peu. C'est, on nous cache, comme si on était impropre à voir. Hein. À l'époque, on voyait comment passaient les communications, les transmissions. Et maintenant, tout est enterré. Ouais, je dis pas c'est plus simple, mais peut-être que ça fait qu'on nous oublie un peu. Petit à petit, si on ne nous voit plus, on nous oublie.
Mais là, on est toujours aussi présents, sauf que les mines, elles sont déplacées, par exemple. Elles sont déplacées, pour les consommateurs. Mais en fait, on est toujours là. Et donc, il y a une sorte d'esthétique de l'immatériel, une sorte d'idéal de pureté, mais c'est la supposée immatérielle. On est juste déplacé, en fait.
On voulait nous effacer de l'imaginaire collectif.
Ouais. Oui, comme si la matière, c'était presque vulgaire, quoi. Comme si on voulait plus nous voir. Mais... Ça me fait penser à l'histoire de cet humain qui, son internet ne marchait plus, et alors il appelle le réparateur. Donc il y a un monsieur qui vient, qui regarde sa box, et puis il bidouille un peu les câbles, il suit les câbles. Il lui dit « Ah, mais j'ai trouvé votre problème, c'est un écureuil qui m'a échoué votre internet. » Et là, c'était marrant, en fait, cette rencontre entre le supposé immatériel et le physique, quoi. En fait, tout ce qu'on peut faire sur internet, c'est quelque chose qu'un écureuil pouvait mâcher. C'est étonnant, cette...
On a erré en traînant nos électrons. Parmi les ruines, de la matière hors d'usage, abandonnée, entassée. Les usines désaffectées sont vraiment à mi-chemin entre la catastrophe et le sublime. On a le sentiment de voir le passé et le futur en même temps, l'impression de contempler l'humanité du dessus. C'en est presque drôle, cette humanité stupide qui joue avec des forces plus grandes qu'elle. Des colonnes de lavage à l'huile, des fours aux parois craquelées, des châssis aux vitres absentes, des panneaux de contrôle d'un autre monde, des tôles de fer rouillées au-dessus du vide, du silence. Il a commencé à pleuvoir. On est rentré par une petite porte dans un bâtiment assez bas de plafond, sûrement un local technique.
Bon, en même temps, nous, on n'est pas pressés.
Ça fait un peu froid, quand même.
À ce moment-là, c'est moins content. Là.
Des panneaux de commande laissaient encore apparaître des valeurs de tension, de puissance, d'autres termes incompréhensibles. Une lumière blafarde passait à travers des hublots graisseux.
Bah, moi, la pluie, ça me dérange pas, mais... Si je peux éviter de rouiller.
Oh, regardez là-bas, il y a de la lumière sous la porte.
La porte menait vers un couloir faiblement éclairé. Le couloir était assez large. Une affiche de la chambre syndicale des mines de Belgique montrait un ouvrier en train de chuter à cause d'une installation hasardeuse.
Ne sois pas prisonnier du désordre d'ordre.
Le carrelage paraissait en bon état. une odeur de café froid et de tabac. Au bout du couloir, un ascenseur, porte grande ouverte.
Train de wagonnet tiré par un cheval
aveugle.
On chargeait 30, c'était 35 sous.
On gagne rien, on gagne du mal argent pour manger.
Il y a beaucoup de risques, ce n'est pas construit avec le béton.
On cherche combien d'heures de travail et 4 heures.
Au moment où l'argent bénéficiera du diamant.
Il tire 4 fois la corde du signal d'en bas pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis. Après un léger sursaut, la cage plonge. Tombe comme une pierre, ne laisse derrière elle que la fuite vibrante du câble.
Il y a des paillettes partout sur le sol.
La galerie qu'on avait sous les yeux n'était pas éclairée. Grâce à la lumière de la cabine d'ascenseur, on pouvait quand même entreapercevoir une lampe à acétylène accrochée à un piton mural.
Compagnie auxiliaire des mines.
Sur la lampe, en plus petit, une autre inscription.
L'escorte indispensable à toute exploration fructueuse.
J'ai accroché la lampe au vélo. Elle s'est allumée et nous nous sommes avancés dans la galerie.
Oh, il fait hyper chaud.
Oh, c'est pas une chaleur qui me dérange. Je trouve ça pas plutôt agréable.
Une moiteur rassurante emplissait l'air. Les parois de la galerie brillaient d'un éclat mat, parcouru par des stries parallèles plus claires, laissées par des coups de pioche. Des chariots à moitié pleins étaient stationnés, il y avait même une botte
de foin.
T'imagines travailler dans cette chaleur ?
Ben, j'imagine pas travailler du tout. Ouais, c'est parfait pour taper un petit somme.
Mais vous pensez que c'est une mine de quoi ?
Ça pourrait être du charbon.
En tout cas, ça, c'est pas une mine de terre rare.
Ah ouais ? Comment tu sais ?
Bah, je sais, c'est tout. S'il y avait mes cousins, là, je le sentirais.
J'ai repensé au recyclage des terres rares. Trouver une aiguille dans une botte de foin. De gisement à minerai, à objet, à déchet. La route est toute tracée. Chaque coup de pioche, chaque pelleteuse, chaque marteau-piqueur, chaque godet qui creuse la montagne et qui signe le passage de roc à poussière, c'est une pelletée de terre pour enterrer des corps, des pensées, des champs. Pour une poignée d'atomes. Pour ces atomes qui se retrouvent ici, partout autour de nous, qui goûtent sur le sol. Ces atomes auréolés de destruction, que l'on dépossède de leurs histoires.
Pourquoi continuer à progresser dans cette galerie complètement insensée ?
La fièvre du mineur s'était emparée de moi. J'en voulais plus, jour 1. Parfois on marche, on va chercher.
Pas besoin de la certitude de tomber sur un filon pour continuer de creuser. La recherche suffit
pourquoi
à elle-même.
Pourquoi je fais pas demi-tour là ? Pourquoi je rentre pas à la maison ? Je me fais un petit thé.
Ce documentaire était devenu une excavation en règle, jusqu'au bout.
Pourquoi ? Et jusqu'où on va aller ?
La lampe accrochée au vélo brillait avec plus d'intensité.
Vous entendez ?
On est arrivé à une sorte de petit renfoncement dans la galerie. Il y avait un humain en blouse face à la paroi. Il semblait parler à la paroi.
La formation de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Les planètes vont venir se former. Donc elles vont s'accréter. Donc il y a des.
C'est un cours de minéralogie.
Des
je crois.
Météores qui vont entrer en collision et qui vont progressivement s'accumuler. Toute cette chaleur, ça amène à la formation d'un océan magmatique. Une sorte de boule complètement fondue qui, progressivement, va refroidir. Et va cristalliser. Là, on a un premier processus de différenciation.
Waouh, c'est incroyable.
1 milliard d'années après la formation de la Terre, on a globalement les proportions des différents éléments entre les différents compartiments, le noyau, puis le manteau, puis la croûte terrestre sur laquelle on vit, là où on a en fait les éléments qui nous sont accessibles. Pour qu'on puisse former un gisement, il faut un processus à la surface de la Terre ou en profondeur qui concentre l'élément chimique. Donc il faut des conditions très particulières, soit de température, soit de pression, soit des compositions de fluides qui circulent dans les roches. On parle de fluides, peut-être qu'on pense directement à l'eau, mais ça peut être des fluides à haute température, haute pression, c'est variable. Et donc ces fluides circulent autour de la roche. Et en fait, certains éléments vont préférer rester dans la roche et d'autres aller dans le fluide. Petit à petit, quand ce fluide circule, la roche va s'appauvrir dans les éléments qui vont dans le fluide et ne vont rester que ceux qui préfèrent être dans la roche. Donc si c'est un élément qui aime être dans la roche, il va progressivement se concentrer. Et de la même manière, si c'est un élément qui aime être dans le fluide, le fluide, au bout d'un moment, enfin, il va circuler, mais va arriver à un endroit où potentiellement il va s'accumuler. Si les concentrations deviennent très importantes dans les éléments qui aiment le fluide, bah, il y a un moment, les lois de la physique nous disent qu'il va être obligé de précipiter. La concentration va pas.
On s'est éclipsé avant la fin du cours, comme si mon corps voulait repartir. La matière prenait le dessus sur les pensées. La lampe diffusait maintenant un halo généreux. J'accélérais la cadence. On ne parlait plus. Le mouvement était devenu une nécessité. La matière a ses raisons que la raison ignore. Il fallait la suivre sans réfléchir. La galerie tournait. On est arrivé à un embranchement. Sur le sol, au milieu de l'entrée de la galerie de droite, un tas d'aiguilles. Juste à côté, un petit carnet avec une image dessus. Une grosse machine pour faire du goudron.
Mais comment je sais ça?
Sur la quatrième de couverture était écrit...
Le livre que vous tenez dans les mains est une projection dans le monde physique d'un objet sonore.
Les deux objets sont pensés comme un seul, de la même façon qu'un corps n'est jamais qu'un corps et qu'un esprit n'est jamais
qu'un esprit.
Il a été trouvé par l'héroïne d'une fiction radiophonique dans la galerie d'une mine qui semblait encore en activité.
Je l'ai fourré dans ma poche, ça servira toujours plus tard. Devant la galerie de gauche, un vestiaire vide. Au-dessus du vestiaire, il était écrit
« Avant d'aller plus loin, prenez soin de
laisser vos pensées au vestiaire tellurique ». Il fallait accélérer si on voulait arriver au début.
Au début de quoi? Cette pensée, elle est à qui?
Plus j'accélérais et plus la galerie paraissait lumineuse. Ce n'était d'abord que des petits scintillements, ici et là, mais lentement elle s'est mise à briller.
Pourquoi est-ce que j'avance?
Par zones éparses, puis uniformément. La lumière a percé le sol, le plafond, les parois. J'ai continué d'appuyer sur les pédales d'âle de toutes mes forces. Je voulais aller plus vite. Enfin, je voulais rien, mais il fallait les vite. La galerie est devenue un tunnel gigantesque de lumière et de chaleur. J'étais aveuglée, noyée, dissoute. Mes synapses, mon hémoglobine, l'air dans mes poumons,
plus rien.
Plus d'informations.
Il ne me restait que le son.
Que j'ai pédalé plus vite que ce que la matière avait le droit de faire. D'ailleurs, à un moment, mon vélo était devenu gaz. En chimie, on appelle ça une sublimation.
Tant que j'entendais Orphéon, ça irait,
Je sentais le livre.
Terminer ce documentaire.
Dans ma poche.
Celle de nos sèches-cheveux, sachets de thé, nos poils en tête.
Celle de nos sèches-cheveux
qui ne se termine pas.
Quelle poche?
Quelle poche?
Adélaïde, tu nous entends?
Oui, on est où?
Je peux pas te dire où, mais je peux te dire quand. On est une vingtaine de minutes après le Big Bang.
Mais c'est qui, eux, là, tout autour de nous?
C'est une soupe de particules. Des électrons, des protons, des neutrons, des neutrinos, des noyaux d'atomes. Il faut attendre 400 000 ans. Que ces noyaux puissent enfin rencontrer des électrons et former des atomes.
Et regarde, le voilà. L'atome le plus petit, celui qui n'a qu'un électron, l'hydrogène. Autour de nous, l'univers est en expansion. La matière se répand un peu partout.
Dans certaines parties plus denses, l'hydrogène forme des amas et une étoile se forme.
La température monte à nouveau et c'est l'heure des réactions thermonucléaires.
Thermonucléaire, c'est thermo, il fait chaud. et nucléaire, parce que c'est les noyaux qui vont interagir. Les noyaux deviennent de plus en plus gros. Par exemple, deux noyaux d'hydrogène peuvent fusionner pour donner un noyau d'hélium.
Progressons vers le cœur de l'étoile. Il fait de plus en plus chaud.
Nous traversons des couches successives et les atomes sont de plus en plus lourds. Beryllium, carbone,
oxygène,
sodium,
néon, magnésium.
Ça y est,
nous y sommes. Nous avons atteint son cœur.
Et c'est là que nous croisons un atome de silicium.
Du silicium,
Alors c'est que l'étoile n'a plus que quelques heures à vivre. Il fait 3 milliards de degrés, et voici que cet atome de silicium, après une explosive rencontre avec des rayons gamma, se met à libérer protons, neutrons et particules alpha. Ces particules réagissent avec un autre atome de silicium formant par là même tous les éléments jusqu'au fer. Arrive le point critique, celui où il y a trop de fer par rapport au silicium.
Le cœur de l'étoile se contracte
au fur et à mesure que l'enveloppe se dilate. Ce qu'il se passe maintenant va être plus ou moins violent et plus ou moins rapide.
Scénario 1. Nous sommes face à un mastodonte, une étoile d'une masse gigantesque.
Devant nos yeux, elle implose violemment dans un grand souffle.
Son cœur s'effondre.
Une onde de choc la balaie du centre vers les couches externes et réactive sur son passage la fusion de chaque couche. Lors de ces fusions, des éléments plus lourds que le fer sont synthétisés. Ces atomes sont éjectés dans l'espace. Scénario 2. Nous sommes dans une étoile de masse modeste.
À peine quelques soleils.
L'enveloppe se dilate
sereinement et les atomes qui la composent se répandent eux aussi dans l'univers.
Sans heurts cette fois.
Les éléments créés dans les étoiles arpentent désormais l'univers.
Qu'ils y aient été éjectés avec fracas
ou délicatesse. Leurs histoires s'écrivent et le temps ne fera pas demi-tour. Quelques milliards d'années plus tard, certains d'entre eux ont formé des planètes, des gisements, des flûtes de Pan et des cafetières. Quelques milliards d'années plus tard, nous voici entre amas d'atomes, parmi d'autres amas d'atomes, à se demander pourquoi les uns décident du sort des autres, alors que nous sommes indistinctement tous issus du même souffle primordial.
Un jour, est-ce que je finirais aussi par oublier ce voyage dans le monde des humains ? Je veux dire, c'était si bref. C'était bref, mais c'était un beau voyage.
Là, moi, je parle en tant qu'individu atomique, mais c'est pas souvent que je peux parler. Donc l'individu, des fois, il est un peu flou, quoi. On connaît pas forcément trop nos limites. Vu que les électrons, ils bougent là, tout autour, notre contour, il change toujours un petit peu. En même temps, moi, j'ai jamais vraiment eu des contours fixes. Il y a de la beauté dans le flou, quand même.
d'essayer d'écouter mon corps. Parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui date de quand le Big Bang s'est créé et les premiers atomes sont apparus. C'est de là où vient ma sagesse, c'est la sagesse de mon corps. C'est les atomes qui m'habitent qui peuvent me dire des trucs. Moi, mon esprit, c'est un esprit d'un humain qui peut plus ou moins comprendre, mais avec un système un peu tordu, une société très malade. Nous, notre génération, la génération de nos parents, ils n'ont jamais appris à rentrer dans une montagne, tu vois, et rencontrer les êtres qui habitent à l'intérieur.
J'ai une relation spéciale avec chacun de mes électrons. Comme les humains, ils ont une relation spéciale avec chacun de leurs doigts, avec leur peau, avec chacune de leurs cellules. Ben moi, c'est pareil, tous mes électrons sont importants. Ils sont tous... Si j'en ai un en plus, si on m'ionise, ben, je suis une sorte de moi modifié. Mais c'est peut-être une étape de vie aussi. Tout se transforme et... Le mouvement, c'est important, quoi. Sinon, tout stagne et il se passe rien.
J'ai posé le caillou sur la table, dans un rond de lumière. Comme je le regardais encore, sans plus rien espérer de lui, je l'ai vu environné d'un vague halo et j'ai perçu, dans ses deux dents, une sorte de battement. Quelque chose de lui s'est approché de moi, quelque chose de lourd, de timide, d'heureux pourtant. C'était comme un regard sans visage, sans yeux, rien d'autre qu'une force aimante, semblable à la chaleur d'un regard. Pourquoi ne vit-on pas ces choses plus souvent? Elles sont si simples. Mais qui se soucie de regarder dans un caillou? On pousse devant soi quelques idées distraites qu'on croit indiscutables. Un caillou? C'est moins qu'une plante. C'est sans valeur. C'est chaotique. Et le passant va son chemin, cherchant un ami peut-être, ou le sens de la vie, ou la maison de Dieu. Tout était là pourtant, sur le bord de la route, dans ce morceau de roc effleuré d'un œil vague. Il aurait suffi de se pencher sur lui et d'oser faire sa connaissance. Il aurait suffi de...
Une vis qui écartèle progressivement les fibres d'un bois tendre.
Une détonation. Un mot doux chuchoté.
Une fissure sur un vase.
Le pied lisse
de la statue.
Passez vos doigts sur nous, le long de la nervure d'une table faite d'un bois centenaire.
Remontons le cours du temps, à la recherche d'une piste, d'une histoire, d'un récit qui contiendrait tous les autres.
Celui d'une matière, née souveraine, mais vite domestiquée. À peine enfantée.
Et me voilà perforée, brinque-ballée, concassée. On s'arrache les roches où j'ai eu le malheur de me loger.
Puis on m'arrache à ces roches, puis on s'arrache les brevets, puis on s'arrache
le dernier téléphone où j'exhibe mes propriétés électroniques époustouflantes.
Personne ne s'émerveille plus que je rende les écrans tactiles, les tumeurs luminescentes, les ailes des papillons opalescentes.
Arracher, ce n'est pas prendre, ce n'est pas effleurer, ce n'est pas caresser.
Arracher, c'est violent,
cruel,
sanguinaire.
C'est pour ça qu'on a fini par arracher tout ce qui m'entourait.
En arrachant plus, pour l'idée que le plus vaut plus que le moins.
On a fini par ne faire que du moins.
Tuer.
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 Pendant les massacres, parmi les haches, les carabines, les sarbacanes, les kalachnikovs, il y en a toujours une pour sourire en se souvenant avoir été la queue d'un dinosaure ou l'antenne d'un escargot.
Parmi les halètements du profit, les dos courbés, les cliquetis de tablettes, le trading à haute fréquence et les fusions acquisitions.
Il y a une machine à café qui se rappelle avoir été souche de Ginkgo. Nous sommes les enfants du soleil.
Nous sommes nés d'une implosion.
Nous sommes nés d'une implosion.
Nous avons été une onde de choc
dans le grand silence de l'espace.
Une étreinte de noyaux solitaires. Nous sommes les enfants des étoiles. Notre rire est suspendu au milieu du vide.
C'était Les cailloux meurent aussi, une création radiophonique de Mathilde Schoenauer-Sebag. Avec les voix d'Audrey Esnault, François Ischia, Mathis Pernet, Florent Langtin, Anne Suzette Lagarde, Sylvain Le Faller, Yann Pasquet, Vincent Roquemont, Mathieu Chassé, Anna-Maria Lozano-Rivera et les voix non vocales de différents objets. Extrait de texte de Henri Gougeot, Émile Zola, Chris Marker et Zheng Xiaoqiong. Conseil scientifique, Ilay Kelmela. Prise de son, Jeanne de Barcy, Emmanuel Botterio, Aurélien Lebourg. Harpe, création sonore, Doudinka. Flûte, François Ischia. Mixage, Rémi Gérard. Peinture, David Temprano Mediavilla. Graphisme, Juliette Damien. Une production Transculture, réalisée avec le soutien de la CSR et du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour vous procurer un exemplaire qu'Adélaïde a trouvé dans la galerie, rendez-vous sur radiola.be.
Paf, 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 oui, l'interview.
Donc, je viens d'écouter ton super son qui s'appelle « Les cailloux meurent aussi ». Je sais que t'as vachement hésité avec les titres.
Ouais.
C'était quoi les autres titres ?
Il y avait « Les cailloux ne se cachent pas pour mourir ». En fait, c'est une référence à un film Chris Marker et Alain René. Les statues meurent aussi, qui est une espèce de film assez court sur le rapport entre art et colonialisme. Et j'aimais bien la ref, et en plus il y a une autre ref à Chris Marker dans ce son, dans Les cailloux. Et puis une référence à Francis Ponge, qui a écrit Les choses, un recueil de poèmes, et dont l'extrait d'ailleurs est dans le livre, qui accompagne l'objet radiophonique, et qui est que finalement la seule chose à vraiment mourir, ce sont les pierres, les cailloux, parce que tout le reste fait des cycles, alors que les cailloux s'effritent mais ne reforment pas des cailloux, ce qui n'est pas tout à fait vrai géologiquement parlant.
Oui, parce que du coup toi t'as une casquette scientifique en plus d'avoir une casquette de créatrice sonore, et du coup c'est intéressant ce que ça fait un peu cet objet hybride dont on a l'impression que quelqu'un qui n'aurait pas ces deux casquettes ne pourrait pas le faire. Et du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu ton cheminement et décrire un peu ton parcours ? Comment tu en es arrivé à faire un objet sonore, poétique, scientifique ?
J'ai fait des études d'ingénieur et après je me suis retrouvée en doctorat en sciences des matériaux. Donc tout le début des cailloux qui meurent aussi. Tout le début de la création sonore, c'est autobiographique, donc c'est vraiment un laboratoire où j'allais travailler. Et en fait, la plupart des sphères scientifiques que j'ai pu côtoyer sont assez dépolitisées, et la question des terres rares et de l'approvisionnement en terres rares et de l'extractivisme sont pas vraiment... n'ont pas la place qu'elles devraient avoir, d'après moi. Et je pense que après le doctorat, où j'ai plus j'ai été plus portée vers l'activisme, l'un dans l'autre, il y a un discours qui s'est créé autour des questions d'extractivisme et des terres rares que j'avais pu côtoyer pendant la thèse. Et c'est donc, à ce moment-là, je pense que ça fait une sorte de condensation... avec aussi mon appétit pour les sons et pour la création sonore. Et du coup, ça fait un objet qui était à la fois scientifique, parce que j'aime profondément la chimie, la science, la physique. Maintenant, je suis prof de physique, de chimie. Et j'aime bien raconter des histoires aux élèves. Et je pense que l'émerveillement peut être une porte aussi à la métamorphose de nos relations avec la matière. Du coup, quand on comprend comment la matière est faite, quand on se pose des questions sur ce qu'il y a derrière cette matière qu'on a l'habitude de côtoyer, ça peut être une façon d'avoir envie de la protéger ou de lutter contre des modes destructeurs d'extraction.
Et du coup, c'est vrai que le monde de la science et le monde de, du récit, a priori, ils se frictionnent rarement. Enfin, il y a de plus en plus d'auteurs, de personnes qui pensent un petit peu la science de manière plus sensible. Et du coup, comment tu t'y es pris pour raconter une histoire autour de quelque chose qui est censé être supposément aride, qui est... Enfin, en tout cas, toi, tu penses que ça l'est pas, mais... mais en tout cas, c'est l'image qu'on en a.
Je pense que personnifier les atomes, c'est un truc qu'on fait... Enfin, remarque, je suis pas tout à fait sûre, mais assez naturellement quand on bosse avec eux. Beaucoup de chimistes, à mon avis, ont ce rapport-là à la matière, des petits personnages où on voit des interactions intermoléculaires ou interatomiques vraiment comme des relations entre des humains. Enfin, peut-être que je m'avance et que je suis la seule, mais j'ai l'impression que c'est quand même un jeu qui peut s'opérer facilement. Et du coup, raconter l'histoire des atomes par les atomes, en personnifiant les atomes, c'était ludique, en fait, même pour moi et pour les comédiens et comédiennes, c'était chouette de s'emparer de ce personnage-là, en partant du nombre d'électrons et un peu du diamètre et des lieux de forage d'exploitation.
Oui, justement, comment tu as travaillé la direction d'acteur, parce qu'on se dit, vas-y, interprète un atome. Ça semble pas couler de source.
Il faut savoir que c'est des personnes exceptionnelles et qui se prêtent assez facilement à l'abstraction et à la grande déconnade. Et du coup, moi, je leur ai demandé de lire un livre qui s'appelle La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, qui est plutôt un bagage comme ça technique qu'ils avaient sur la question. Et après. Après, on a joué avec les personnages des comédiens propres, à proprement parler. Par exemple, Audrey, qui joue la Dame de Fer, elle est toujours un peu sur un mode... Mais vous trouvez pas que, quand même, c'est un peu bizarre que... Donc, du coup, ça a tenté son caractère, le personnage de fée. Et puis, François, qui vient de Franche-Comté, a un sacré accent. Et du coup, voilà, ce truc un peu plus bourru, un peu plus... mais aussi très touchant, et qui est son propre rapport. Il est graveur, François, il fait beaucoup de gravures, et il a cet appétit des objets, enfin, cette amitié des objets. Et donc ça, c'est un truc qui est propre à lui. Pareil, Audrey, il y a des moments où je leur ai laissé le micro, et je leur ai dit, vous pouvez parler de vos souvenirs d'extraction, vous faire une confidence au micro. Et je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient faire. J'ai découvert après au dérush. Et en fait, ça a changé une grosse partie de l'écriture. Et j'ai décidé d'utiliser beaucoup plus de leur confession intime. Parce que c'était très touchant et c'était très pur.
Et y a tout un travail aussi sonore sur justement une des ambiances. Les voix aussi qui sont un peu trafiquées. Comment t'as bidouillé un peu tout ça pour créer une ambiance atomique?
La voix des atomes, ça a été un travail assez exploratoire aussi, qu'on a beaucoup fait au moment du mixage avec Rémi Gérard. Et il a suggéré des outils, des plugins qu'on teste. Et en fait, tout l'enjeu, c'était de... Pas, qu'on comprenne que c'était pas des humains, parce que moi au début, les premières écoutes qu'on a fait, je me rendais pas compte, mais les gens qui écoutaient me disaient, mais on comprend pas du tout que c'est des atomes. Du coup, je leur ai rajouté ce petit brrr à des moments, plus une couche d'effet qui disparaît à la fin, quand tout le monde est devenu plus ou moins atomique, enfin, chacune son interprétation de cette disparition. Mais ça, c'était une chose, c'était la voix des atomes. Pas humain, mais pas non plus « je suis un atome ». On voulait un peu éviter ça. Et après, il y a beaucoup de créations sonores autour des objets que j'ai enregistrés ici et là. Il y a aussi une formation que j'ai faite à la CSR, la coquille, où on a tout un peu expérimenté avec des zooms et puis des objets et des objets dont j'affectionne le son. Et j'avais envie d'en parler parce qu'il y a quand même un amour des objets quelque part, une envie de les sublimer, et le son que font les objets, pour moi en tout cas, c'est une porte aussi vers cette relation quasiment amicale avec certains objets. On se dit, ah ça c'est ma bonne vieille porte qui vient, on connaît par cœur ce son, ou je sais pas, vous savez pas, mais il y a une bouilloire qui est dans ma salle de bain qu'on entend et qui fait, genre, elle chante à chaque fois et je trouve ça beau.
Est-ce que ouais, il y a eu des écueils dans lesquels t'as failli tomber et que t'as réussi à contourner un petit peu, tu sens?
Ouais, il y avait en fait moi j'ai été très très frustrée parce que j'avais prévu un contenu beaucoup plus lourd, déjà que c'est un objet assez dense, et en fait il y a plusieurs parties et notamment plusieurs précisions techniques et vraiment des données sur l'extraction, le recyclage, tout ça que j'ai pas pu mettre, et j'ai contourné ça en écrivant le livre dans lequel j'ai pu rendre plus digeste ces informations là qui auraient pas été super agréables je pense à l'écoute. Donc ça c'était chouette d'avoir cette pas exutoire mais un peu cette forme là qui me permettait de faire passer d'autres choses qui passaient pas avec le son. Il y avait un truc aussi à un moment que j'ai, mais je pense que ça c'est dans n'importe quel objet de création, on prévoit des choses et en fait au tournage on lâche un peu et après au montage on relâche encore un peu, et il y a plusieurs couches d'écriture comme ça qui éloignent beaucoup du premier jet d'écriture forcément. Et je pense qu'au début c'était un objet très amer, très très triste. Et j'ai l'impression que, parce que c'est comme ça que je me sens sur ces questions-là, et j'ai l'impression que j'ai réussi un peu à laisser ces sentiments de côté pour en faire quelque chose de plus lumineux, peut-être. Enfin, ça, c'est...
Est-ce que, du coup, tu as travaillé le médium de l'écriture d'un livre et celui de la création sonore? Je sais que tu avais déjà fait du son, mais je ne sais pas si tu avais déjà écrit des livres. Mais du coup, c'était quoi un peu les forces de chacun de ces médiums? Enfin, qu'est-ce qui t'a plu dans chacun? Et comment ils s'articulent aussi, peut-être une question subsidiaire? Ces deux questions.
Ouais. Les forces de chacun, c'est... Je peux répondre un peu plutôt par l'intime. J'ai l'impression que l'endroit où je vais chercher le son va être un endroit tactile pour moi. Il y a ce rapport-là au son qui est vraiment un objet qui crisse, qui suinte. Il y a dans le son quelque chose de dense un volume, quoi, un truc autour desquels je place mes mains. Enfin, il y a une densité, et que le papier, les mots sur le papier, c'est beaucoup plus en 2D, quoi. Enfin, bon, c'est une réponse un peu abstraite, mais je sais pas comment dire. On est plus exposé aussi dans le son que sur le papier, où quand on écrit, on est planqué, puis on peut, moi, je peux plus facilement dire des gros mots à l'écrit que avec le son. Enfin, même s'il y a des parties très gros mots sonores, justement le côté noise que je suis contente de pas avoir évincé, c'est bon. Et mais ouais, les gros mots à l'écrit me soulagent plus que les gros mots sonores. En tout cas, je crois que je réalise un peu ça en le disant, parce que c'est plus percutant. Et après, comment s'organisent les deux? Il y a, comme je disais un peu, il y a eu la nécessité de créer le livre après, qui arrivait un peu après. Et en fait, c'était une évidence parce que c'est un objet sonore qui parle des objets physiques. Et je suis tombée sur une BD dont j'ai oublié le titre, d'un type qui marche des grottes de Pouechmer, là. Tu vois ce que c'est?
Il s'agit de la bande dessinée Les Droits du Sol, d'Étienne Davodeau, qu'on vous conseille chaudement.
Il y a un moment où l'auteur rencontre une personne qui est spécialiste du papier et qui lui dit « Je pense que les objets papier ont beaucoup plus de pérennité, beaucoup plus de chances de survie sur le long terme que les objets numériques. » Et ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit « Ah tiens, le papier, a priori, c'est des fibres végétales, ça peut se détruire. » Mais en fait, c'est vrai qu'un disque dur, dans une ère post-numérique, qu'est-ce qu'on en fait ? Du coup, évidemment qu'il faut un objet physique en papier. Alors qu'on est précisément en train de parler de ça, de l'amour, d'avoir des objets en main, de s'imaginer tout le chemin qu'ils ont eu. J'essaie un peu de parler de ça au début du livre, de se dire les fibres végétales, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça ressemble moléculairement ? C'est quoi ? Et d'où elles viennent ? Quels atomes les composent ?
Oui, on sent que... Moi, je sais qu'après, en l'écoutant, c'est marrant, tout à l'heure, je nageais dans le lac et j'ai eu cette conscience que j'étais entourée d'atomes. Je trouvais ça hyper, hyper chouette. Je pense que je l'aurais peut-être pas eu... Enfin, c'est un truc que j'ai rarement, quoi. Cette conscience que... La mettre, on va dire, mais bon... Il y a pas mal de penseurs, philosophes qui réfléchissent à comment, en fait, redonner une sorte de voix aux vivants. Enfin, en tout cas... essayer de s'extraire un peu de l'anthropomorphisme et de juste se considérer comme le centre du monde. Est-ce que toi, t'as été influencée par ça ? Parce qu'on sent quand même que c'est dans une filiation de ces penseurs.
La volonté de changer notre rapport au vivant, je me suis dit, ok, dans les milieux progressistes, elle semble relativement déjà bien intégrée, on va plus écraser des moustiques... forcément, tout le monde ne va pas forcément écraser les moustiques, ou bien quelque chose a déjà bougé de ce côté-là, mais par contre, du non-vivant et de l'inerte en particulier, il y a très peu de sensibilité à cet endroit-là. Et c'est marrant parce que j'ai toujours détesté la géologie quand j'étais plus petite, et j'avais absolument aucune empathie pour les cailloux. Et en fait, le passage... par l'extractivisme, par la conscientisation de ce que c'était qu'une roche dont on extrait des matériaux, dont on faisait nos objets, tout d'un coup m'a rendu le caillou comme l'objet qui subissait des souffrances, ce qui est évidemment, quand j'en parle comme ça, un peu un jonglage mental presque, parce que je ne crois pas réellement qu'un caillou souffre, au sens de la souffrance qu'on peut décrire sur des systèmes nerveux complexes. Mais je ressens de l'empathie. Enfin, je ressens, c'est ce que je dis à un moment dans le livre, c'est les parois de mon estomac qu'on racle. Quand je vois des montagnes se faire détruire, il y a quelque chose en moi, vivante, qui est touché par ce tableau-là. Et du coup... oui, la filiation j'allais dire Isabelle Sengers, je sais même pas citer parce que ça fait un globigoulba, mais l'appartenance à la planète Terre, c'est la nature qui se défend et tout ça, c'est des pensées qui m'habitent et qui surgissent un peu dans ce travail, je pense.
Oui, on a l'impression que ça repousse un peu cette limite, que ça a été pensé pour les animaux, pour les végétaux, et que c'est assez novateur de le penser pour la matière inerte, en lieu minéral.
Ouais. Et en même temps, Francis Ponge, c'est vraiment chouette ces poèmes, les choses. C'est génial, parce qu'il parle des cagettes de bois, il parle aussi des escargots, hein, il parle pas que de l'inerte. Mais il y a tout un grand passage sur le galet. Mais c'est d'une beauté. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui m'a dit après, elle écoute, faut que je te parle, c'est grave, j'ai eu envie de faire un câlin, un caillou. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est... Pourquoi arrêter son empathie pour les plantes et les animaux non humains pourquoi pas? Testons, quoi. Si ça peut... Et en fait, j'écoutais une émission aujourd'hui même sur les dangers de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'en voulant projeter des individualités ou des façons de penser humaines sur les non-humains, on risque d'être dans le flou et dans, et surtout dans, encore une fois, l'hégémonie humaine et qui se dit, ben non, les plantes, elles pensent comme les animaux, et là, là, là. Alors que notre façon de le faire, ce serait juste de considérer leur altérité. Deuxièmement, on n'est pas obligé de penser qu'une plante pense comme un animal pour avoir envie de la protéger. On peut juste penser la plante comme une plante. Et je me suis dit, c'est vrai, il y a des dangers de l'anthropomorphisme. Ici, je le joue un peu la carte de l'anthropomorphisme, mais j'ai l'impression que c'est à dessein de, d'émerveillement et de rentrer dans l'action aussi. Mais reconnaître l'altérité, c'est trop bien aussi. J'ai pas encore tranché sur qui est-ce qui est plus efficace que quoi, dans quel contexte. Je pense que les deux s'appliquent à des contextes différents.
Est-ce que du coup, c'est quoi un peu la réception parce qu'il est sorti quoi, il y a un ou deux mois?
Un mois.
Un mois. C'est quoi un peu les retours que t'as? Et tu me partageais en off que t'avais l'envie de le partager plus dans des milieux scientifiques.
Amener de la poésie scientifique à des personnes qui sont pas scientifiques, c'est quelque chose qui a l'air de marcher d'après les retours que j'ai eus. Et cette curiosité et cette nouvelle dimension qui s'ouvre pour les gens qui fréquentent pas trop les atomes. Comme tu le disais, je suis dans l'eau, tout d'un coup je me suis rendu compte que j'étais autour d'atomes, et ça, c'est trop bien, je suis hyper contente. Si ça peut avoir cet effet-là, si ce travail peut avoir cet effet-là, par contre, j'aimerais qu'on discute ouais, du fond politique dans les milieux où on a l'habitude de travailler avec des atomes, mais on ne les envisage pas comme ça. Et où c'est même un petit peu ridicule. J'imagine pas avoir des retours aussi méprisants de la part de collègues ou scientifiques, mais quelque chose du style, bah oui, mais toi tu racontes des histoires, ça nous regarde pas, ça ne regarde pas la science. Et je pense que si, et que c'est pas seulement les non-scientifiques qui doivent s'intéresser à cette nouvelle science-là, mais aussi les scientifiques qui doivent reconsidérer plus que jamais, en fait, la façon de faire la science. Parce qu'aujourd'hui, si on se pose pas ces questions d'origine des matériaux qui nous viennent dans les labos, c'est si parce qu'on a arrêté, la réflexion à un stade beaucoup trop tôt, en fait. On est des scientifiques, on fait pas de politique. Dans la science des matériaux, c'est la course au rendement, par exemple. Dès qu'il s'agit de panneaux photovoltaïques, moi je travaillais là-dedans, ben, il y a plein de questions qui disparaissent. Et les questions d'approvisionnement, les questions de coûts d'extraction, énergie, coûts sociétaux, ben, ça, j'aimerais bien pouvoir amener ce discours-là dans ces milieux-là. Ouais.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, j'ai envie de travailler sur la question de l'extractivisme en lien avec le néocolonialisme. Et c'est aussi toute une partie que j'ai dû enlever de ce premier, j'allais dire épisode, mais oui, en gros, ça en appelle un deuxième et qui est déjà en cours d'embryonnage mental. J'ai fait une interview super chouette d'une chercheuse au CADTM, le Comité d'abolition des dettes illégitimes, sur les questions extractivisme et néocolonialisme. Et voilà, encore un gros pavé. Et c'est incontournable d'en parler, en fait. On ne peut pas parler d'extractivisme sans parler des relations nord-sud et que c'est toujours les mêmes schémas. Et donc, voilà, j'ai hâte de travailler encore un peu dessus.
Ce sera l'occasion d'une autre interview.
Oui.
On a hâte. Merci.
Merci
Mathilde de vous être prêtée au jeu de cette interview pour Bafouille.
Merci beaucoup.
Si vous écoutez ces paroles, c'est que vous avez écouté cette émission jusqu'au bout. Merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode de Bafouille.
Bafouille.